Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alléluia.
Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est avec vous.
Et avec votre esprit.
Et vous citez Jésus-Christ au Saint-Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adresse au foule. À ses disciples, déclare les scribes et les pharisiens. Enseigne dans la chair de Moïse. Ainsi, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le, scrutez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, parce que eux, ils disent et ils ne font pas. Ils attachent des fardeaux pesants sur les épaules des gens difficiles à porter. Mais eux-mêmes ne veulent pas les toucher même du petit bout du doigt. Tous leurs actes, ils les font pour que les gens les regardent et les remarquent. Ils élargissent leur phylactère. Ils rallongent leur ils aiment les places d'honneur dans le dîner, les sièges de gloire dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi. Parce que vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père. Parce que vous n'avez qu'un seul Père. Celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, le plus grand. Parmi vous, le plus grand sera votre esclave, qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Nous inscrivons dans nos âmes qui nous lavent de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.
Bref, entre nous, il y a deux témoins de l'Apocalypse qui rejoignent le trône de la Babylone. pour la vénérer et se mettre à son esprit, se mettre à son service. Babylone la Grande, la Babylone des Gaules, Saint Césaire d'Arles, prophète aujourd'hui, disait que la Babylone des Gaules, dont parle l'Apocalypse, c'est Paris. Paris brûlera. Elle sera précipitée, Babylone, dans l'Apocalypse. Et Saint Césaire d'Arles dit, c'est Paris. Il dit ça il y a longtemps, Saint Césaire d'Arles, qu'en fait aujourd'hui. Et ça ne date pas d'hier. Il est mort en 543. Alors, 543, c'est facile. On a toujours... Combien de saints, de prophètes, hein, depuis 15 siècles, ont prophétisé que Paris serait la Babylone du monde, qui serait précipitée au fond d'abîme. Jusqu'à Notre-Dame de la Salette. La Tour Eiffel, par exemple. Ils ont fait 4 messes noires. Et les hosties qui ont servi la messe noire, il y en a une sous chaque pied de la Tour Eiffel. Cette espèce de réseau diabolique, satanique, etc. C'est affreux. Dans 20 ans, quand on ira à Paris, il y aura une grande pancarte à l'endroit du Palais Bourbon. Et sur cette grande pancarte sera marqué « Ici était Paris ». Le papa amènera son enfant, il dit, viens voir. Et il l'amènera jusqu'à sa pancarte. Il y aura une espèce de cratère, enfin un feu fou, quoi. Tout sera brûlé jusqu'au canal Saint-Martin, vous savez, entre la gare du Nord et la gare Saint-Lazare. Alléluia. Alors, comme deux témoins de l'Apocalypse sont là-bas pour jeter un dernier cri. Comme Jonas, traverser la ville. Je préfère que ce soit Paris-Bruxelles, parce que Bruxelles, je m'en fiche. C'est vrai, c'est curieux ça. On est marqué du sceau. Allez, voilà ce que nous propose comme méditation de Saint Césaire d'Arles. Je vous en prie, frères très chers, réfléchissons très attentivement à ceci. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi portons-nous sur notre front la croix, le sceau du Dieu vivant, le Christ? Pourquoi sommes-nous marqués du sceau sur notre front? À l'Éras, on lisait l'Apocalypse. Césaire, c'est un moine de l'Éras. Saint Patrick aussi. Même moi, j'ai fait mon noviciat à l'Éras. On lit l'Apocalypse marqué sur le front. Le sceau. Attendez que nous ayons marqué sur le front les serviteurs de notre Dieu. Il y a un grand moment, vous savez, qui doit se produire avant que nous ne puissions voir le grand cratère dans Babylone des Gaules, dans la Babylone des Galaadites, des Gaulatis, tiens, pas le beau latin maintenant. Ça marque au fond, va être marqué au fond. C'est une très belle oraison, ça, vous savez. Dire pendant une demi-heure, je mets mon front comme ça. Pour être marqué du sceau. Le nom sera inscrit sur leur front. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. C'est le Seigneur Dieu qui les illumine, l'agneau qui leur sert de flambeau. Le front, c'est la contemplation. Et il y a la marque qui s'enfonce dans la chair, dans le corps spirituel de notre contemplation. C'est la croix glorieuse brûlante de Jésus. Flambante. On n'a plus besoin de maître, vous savez, à ce moment-là. Et on est les rabbis de personne. Nous sommes frères. Tandis que d'autres se laissent marquer sur le front par le chiffre d'hommes de la bête. On peut porter aussi sur le cou le nom de Yodeshinva, Yeshua. On peut faire tout ça ce sont des sacramentaux, mais être marqué sur le front par l'ange. Ceux qui seront dans la contemplation, c'est-à-dire la croix glorieuse, jusqu'à ce que leur chair soit stigmatisée, marquée jusqu'au fond de l'os, si je peux dire, c'est ça, hein, jusqu'à la substance d'eux-mêmes. Ils se tirent. Ils se tirent. Contemplation de la croix glorieuse. Donc, voyez, ça c'est. Réfléchissons très attentivement. Pourquoi est-ce que nous sommes marqués par l'ange du sceau de l'Apocalypse, la croix glorieuse? Le nom d'Elohim sera marqué sur leur front. Et ils resplendiront. Leur vie contemplative resplendira de la lumière du soleil et de la divine volonté. Aussitôt que Jésus s'est incarné, qu'est-ce qui s'est passé dans les 19 premières secondes de sa vie dans le sein de Marie? Frères et sœurs, je ne veux pas, comme dit Saint Césaire, je ne veux pas vous laissez ignorer. Il faut réfléchir très attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 19 premières secondes de la présence divine, hypostatique de Jésus dans le sein de Marie, 9 mois avant Noël? Qu'est-ce qui s'est passé là, en lui? Il faut y réfléchir très attentivement. Il a été marqué dans sa vision béatifique de l'humaine glorieuse par le nom Jésus, dans les 19 premières secondes de sa vie, est une vie contemplative, réfléchissant attentivement. Dans son intellect d'agent, Jésus, pendant les 19 premières secondes de sa vie, quelque chose qui dépasse. Il descend de l'Assomption, parce que Marie, il ne faut pas l'oublier, a été assumée à l'instant où Jésus redescend avec elle dans son sein, les 19 premières secondes. Les 19 premières secondes, ça veut dire dans le temps de sa sponsorité avec Joseph, assumée dans la première personne de la très sainte Trinité. Pour ça, je dis 19 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la contemplation divine? Vous voyez, c'est beau ce qui. Tous ces écrits des pères de l'Eras et des pères de l'Église qui réfléchissaient tout le temps avec Saint Cassien. Par exemple, Saint Patrick était fasciné par le soleil. Ils étaient ensemble. Élie. Leur cœur était comme fondu dans le soleil d'Élie le prophète qui revient. C'était des hommes qui étaient pétris d'Apocalypse. Pour réfléchir, pas seulement réfléchir, mais pénétrer, habiter, disparaître et regarder ce que Jésus voit. Lorsqu'il s'incarne, il est marqué dans sa vie contemplative par quelque chose qui vient d'être créé par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans sa vision de la création tout entière et de Dieu à travers la création tout entière. Il ne regardera désormais plus jamais Dieu qu'à travers la création tout entière jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il fait pendant les 19 premières secondes, mais à la lumière de la justice, de la grâce et de la sainteté, je veux dire, de la sainte famille, de Joseph, de Marie et de leur spécialité. C'est ce qu'explique Saint Vincent de Paul et le Père Olivier fondateur des Sulpiciens. Marie a engendré dans l'Assomption, elle était assumée. Vous voyez ce que ça veut dire être assumée? C'est ce qu'on fait. C'est ce que on fait tout pour ça pendant la demi-heure d'horizon. Être assumé. Wow, assumé. Disparu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu disparaît en nous pendant cette assomption de l'oraison. Pour redescendre avec un soleil à l'intérieur de nous. Le soleil, c'est le Christ. Et nous sommes marqués du nom du Fils de l'homme. Venant sur les nuées du ciel, à la fin des temps, au moment où la cité des hommes disparaît aux yeux de tous comme signe. La terre est marquée par un immense cratère. Mais c'est contemplatif, ça, voyez ce que je veux dire. Il faut que nous réfléchissions attentivement, c'est quoi ce sceau qui est marqué sur le front des élus? Attendez, livre d'Ézéchiel, que nous ayons marqué du sceau. Ceux qui sont toujours de Jécoussi Meshamem dans le sein du temple du Père de Jésus, du Père du Messie. Je vous en supplie, relisez tout de même le livre d'Ézéchiel sur ce sujet. Relisons l'Apocalypse, voyons attentivement. La guérison de Jérusalem, pèlerine en Jérusalem spirituelle, parfaite, durera combien de temps? Je ne sais pas moi. 19 ans ou 19 siècles? Les rabbins disent ça marche par 2000 ans. Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, on va être marqué. Il faut que nous soyons marqués. Il y a par exemple une apparition, vous voyez, vous savez comme... vous voyez, je déteste pas les apparitions, je ne les méprise pas. Hein. J'y vais, moi je prends des cas, j'ai pris des cas entiers. Je suis peut-être le prêtre de France qui a fait le plus de pèlerinages dans les apparitions. Dans toute sa vie, Il y en a par ici à Madrid. C'est une autre Babylone, ça. Babylone et Madrid. Et là, quand on allait, pendant les temps d'apparition, on entendait cette petite qui était en extase et puis qui faisait Jésus, Dieu, le Père, l'Esprit, la Sainte Vierge, des douleurs. Nous faisait visiter comme ça les mystères de Dieu. Mais si on y allait le premier samedi du mois, là-bas, on avait la promesse absolue que si on fermait les yeux, on levait le front, les anges venaient nous marquer du sceau du Fils de l'Homme. Du sceau de l'Apocalypse. Pour qu'on soit préservé de toute autre vision que celle de Jésus. De celle que Jésus a. Qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Réfléchissons attentivement. Mais qu'est-ce qu'il voit? Alors, Marie a été assumée quand elle redescend. Elle engendre à l'intérieur de Dieu ce fait que le regard de Dieu désormais passe par la lumière de gloire. Et l'unité sponsale ensoleillée dans la divine volonté de Jésus, Marie-Joseph. On appelle ça le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Jusqu'au fond de l'amour sans limite et sans fin et accompli, dans lequel tout est réassumé à l'intérieur de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Le passage, voyez, du corps mystique de Jésus sur la terre, dans le fruit des sacrements, à la Jérusalem spirituelle de l'union parfaite, et enfin à la Jérusalem glorieuse. Les trois se conjoignant ensemble font quelque part le fond contemplatif de la Lumen Gloriae. La main glorieuse permet au Christ de voir dans la vision béatifique, alors qu'il n'y a toujours pas de cerveau en lui, il n'a pas eu le temps de se former le cerveau, et le cœur non plus, ni les organes, mais il voit très très bien. Et il voit, et il regarde, et il vient se fondre dans ce mystère de la croix glorieuse. Il est marqué. Pourquoi? Parce que c'est la volonté, c'est la sagesse de la croix qui est la sagesse de Dieu. Il faut, c'est la sagesse de la croix. La sagesse de la croix glorieuse, c'est extraordinaire cette contemplation, cette vision. Qu'est-ce qui fait qu'il l'apprécie de manière tellement puissante? Pour ainsi dire, revenir avec tout le mystère de la croix glorieuse jusqu'à cette lumière de la vision béatifique qui est en lui, comme un contrepoids extraordinaire, un ressort fou pour aller se précipiter dans le cœur de Jean-Baptiste, pour le règne du Sacré-Cœur, de la fin. Pas une petite chose, le règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout dans le monde, à partir de la France, à partir de Saint-Joseph, à partir de Jésus, la royauté de Jésus est dans la croix glorieuse. C'est quoi contempler la croix glorieuse? Il faudrait faire une explication là-dessus, vraiment. Il faut parler de la sponsalité, mais il faut parler aussi de la croix glorieuse. Il y a deux signes dans la Bible. La Vierge, de manière virginale assumée, engendrera Dieu lui-même. Et c'est cette virginité qui engendrera Dieu avec nous et en nous. C'est elle qui engendrera la lumière glorieuse, la lumière de gloire qui permet la vision béatifique. Et cette vision béatifique est à l'intérieur de Jésus, dans toute sa vie, même sur la croix, Jésus est dans cette lumière de gloire et il voit tout dans la lumière de gloire de la vision béatifique. Mais avec un contrepoids, c'est évident, c'est celui de la croix glorieuse. Il y a un deuxième signe, le signe du Fils de l'Homme, la croix glorieuse. c'est quoi la croix glorieuse? C'est quoi? C'est quoi ces croix là? Qui dessine, attention, regardez la croix glorieuse. C'est quoi ces 5480 croix qui ont été plantées partout dans le monde? Depuis 1996, depuis le centenaire du baptême de la France. Jusqu'en 2006. C'est quoi? Pendant 22 ans, en fait. Jusqu'en 98, on a arrêté en 98. Jusqu'en 2008, pardon. C'est quoi la croix glorieuse? C'est quoi cette croix glorieuse? C'est quoi? Tout ça, c'est des signes que font les hommes, mais la croix glorieuse profondément, c'est quoi? C'est quoi cette contente? C'est quoi? Jésus, Achash, il aime tellement le Père qu'il va sur la croix pour qu'il puisse y avoir la croix glorieuse. Il ne regarde que ça depuis le début. Il est marqué au front par le nom d'Élohim, le nom du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel dans la croix glorieuse. Ouais, c'est l'âme de Jésus. Vous voyez, il y a le cœur de Jésus, il y a l'âme de Jésus. Il y a l'esprit, le souffle vivant et spirituel de Jésus, son intelligence contemplative et pénétrante. Ils sont tous brûlés par le soleil de la vision béatifique, même quand il est sur la croix. Vous savez, quand vous êtes au ciel dans la vision béatifique, je sais pas, vous avez... Prenez un saint que vous aimez bien, c'est pas le séraphique Saint-François d'Assise, il est dans la vision béatifique. Pourquoi? Parce que la lumière de gloire pénètre complètement toute sa vision et il voit Dieu face à face dans une lumière de gloire. La lumière de gloire, elle crée. Vous allez dire, mais il est heureux au ciel, il est dans la vision béatifique. Il est très très heureux, et bien Jésus. Ouais, on peut rien enlever strictement, on pourrait lui mettre, je sais pas quoi. Des milliards de tortures. Il est dans la vision béatifique, ça ne lui fait rien du tout, puisqu'il est dans la vision béatifique. Il est très très heureux, ça, tous les saints. Oui, et bien Jésus, il est dans la vision béatifique dès le premier instant de son incarnation. Vous le savez, ça? Vous le saviez, ça? Quand il s'est crucifié sur la croix, Jésus est dans la vision béatifique. Réfléchissez attentivement. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aimer. Si vous ne savez pas ce que vit Jésus dans sa vie contemplative, vous ne pouvez pas l'aimer à la fin. Jésus, dans la vision béatifique, même quand il est sur la croix seulement, voilà, le poids de la vision béatifique ne s'empare pas totalement de son âme, de son cœur, de sa chair, de son sang. Il y a un contrepoids énorme. Énorme, de ténèbres, de souffrances, de croix, de torture, d'agonie, qui fait contrepoids à égalité en lui. Il vit la croix glorieuse, la vie du Christ, tota vita Christi, crux fuit atque martyrio. Un théâtre prodigieux à l'intérieur de sa vie contemplative entre la vision béatifique qui, de manière complètement inouïe, s'empare pas de tout en lui. Normalement, s'il n'y avait pas le mystère de la croix glorieuse, le contrepoids de torture, de souffrance, d'agonie, de mort, de croix en lui, s'il n'y avait pas eu cette vision contemplative qui marque son fond, à l'instant même de son incarnation, il est ressuscité d'entre les morts. À l'instant même. Et donc pendant 36 ans, il va y avoir ça. Il va y avoir ce théâtre prodigieux à l'intérieur de sa vie contemplative. Son âme déchirée, arrachée dans son union hypostatique, arrachée à son corps délicieux, délicieusement, délicieusement. Liquéfié comme un faisceau de mire, enivrant, il s'est arraché à ce corps par amour pour le Père, dans le soleil de la divine volonté. Le soleil de la divine volonté, c'est qui s'est uni, c'est qui s'est désiré, qui se précipite dans les bras du Père à travers la création tout entière, tenu à l'intérieur de celui qui a justifié à elle, dans la responsabilité avec l'Immaculée Conception, pour les conceptions virginales de cette croix glorieuse, et ça, c'est extraordinaire. Marie a engendré à ce moment-là, une deuxième fois, la lumière de gloire, mais cette fois-ci non seulement dans son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, mais aussi dans son Époux qui est dans le fond de l'enfer. Et les deux lumières de gloire se conjoignent dans le Père et le Fils, pour que Dieu le Père et Dieu le Fils, dans cette unique lumière de gloire, se fondent l'un dans l'autre pour la émanation de la vision béatifique du ciel, de la résurrection, dans le cœur et dans l'âme. Ça va durer 36 heures, vous savez, ça, c'est dur. La croix glorieuse, ça a duré 36 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissons très attentivement. Pourquoi nous, chrétiens, sommes-nous marqués du sceau sur le front? Croix glorieuse du Christ. Pourquoi? C'est quoi? Nous devons savoir en effet qu'il ne nous suffit pas d'avoir reçu le nom de chrétien par le baptême si notre acte intérieur n'est pas complètement et parfaitement celui du Christ. Le Seigneur nous l'a dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert que vous me disiez Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Les pharisiens, ils disent et ils ne font pas. Et tu auras beau te dire mille fois baptisé, mille fois chrétien, de signer sans cesse, si tu ne fais pas l'acte du Christ, si tu ne vas avoir ni charité, ni amour, ni justice, ni grâce, ni chasteté, de porter le nom du Christ par le baptême pour toi ne servira à rien. Toute la vie du Christ a été croix et martyr. Cet théâtre prodigieux qu'il y a à l'intérieur de lui et qui se voit dans le mystère de Gethsémani, par exemple. Parce qu'il s'est montré dans la transfiguration, c'est vrai, mais à un moment donné, il s'est montré avec les trois mêmes, d'ailleurs, dans le mystère de l'agonie. Le mystère de l'agonie du Christ. C'est une agonie qui est le dernier moment, hein, ce dernier moment où son amour pour le Père l'arrache hors de lui-même et de toute matière, pour qu'avec la vision béatifique, il puisse envahir cette fois-ci toute son âme et tout son cœur d'amour dans le domaine de glorieuse à l'intérieur de son papa. Vous savez, dans la croix glorieuse, vous verrez, si vous vous laissez assumer, vous découvrez à quel point l'amour de Jésus pour Saint Joseph a dépassé l'invraisemblable. La sagesse de la croix. Il fallait qu'il y ait l'union hypostatique des cieux de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que une autre que la Vierge dans le signe a été marquée du signe. C'est Saint Joseph. Saint Joseph, lui, dans l'instant même de son incarnation, dans son âme, de sa venue à partir de rien dans l'existence, et rester ce rien qu'il était avant de commencer à exister. Et quand il a vu qu'il était librement arrêté par la propagation du péché originel, il s'est laissé toucher, comme nous tous d'ailleurs, mais à peine. Aussitôt, il ne pouvait pas hurler des océans de larmes de contrition. Il ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas d'organes encore en lui. Mais tout a crié en lui, tout a crié en lui, tout a crié en lui. Et qu'il a été montré dans le sein du Père, que le Père engendrait un Verbe de Dieu. Ce Verbe de Dieu était amour, amour, amour. En tout ce qui en lui était un cri de soif. De revenir en arrière, de ne pas faire le péché originel, comme une immaculée conception. Et là, il lui a été montré la croix glorieuse, l'union hypostatique déchirée de Jésus, du Verbe de Dieu. Et il s'en est nourri, nourri à chaque cellule, à chaque matière vivante nouvelle, renouvelée, à chaque renouvellement d'acquionie. C'est extraordinaire, ça. Ça n'a pas arrêté pendant 19 ans, à tel point que. Il a surpassé même les productions tachyoniques, de matière vivante, de matière inerte, brûlées par le mystère de la croix glorieuse, sur toute la terre, et même dans le ciel de la résurrection. La résurrection, c'est un monde créé, c'est pas un monde agréé. À un moment donné, la résurrection n'existait pas. La résurrection de la chair a été créée, qu'on appelle le ciel de la résurrection. Hein? Vous savez ça. Le Saint Joseph, voyez, pour 19 ans à force de traverser tous les soleils de la matière possible, et ben voilà, il a pu être assumé, il a été assumé. Comme dit Saint Vincent de Paul, Pérolier, il a spiré. Spiration, hein. À l'intime de lui-même, de la matière de sa vie contemplative, il a spiré. La substance, la nature essentielle divine a créé de la première personne, de la très sainte Trinité. Et à cause de ça, c'est nécessaire, quand Dieu prend chair dans la Vierge Marie, qu'il s'arrache et qu'il déchire son union hypostatique pour venir le rejoindre. Il y a un problème peut-être, non? Oui? Il manque quelque chose peut-être?
Il manque de sommeil.
Pardon ?
Il manque de sommeil.
Tout va bien.
Vous avez sommeil ?
Non, il manque de sommeil.
C'est qu'elle voulait le réveiller, donc je ne sais pas
quoi. Qu'est-ce que ça peut faire ?
Oui. Je suis un peu sûre, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. On recommence à zéro. On est marqué sur le front. Il y a une nécessité, vous voyez, pour nous, d'être marqué sur le front. Parce que Marie engendre à ce moment-là, à l'intérieur de son fils, le Verbe incarné, en se laissant assumer dans la paternité incréée de Dieu. Elle réengendre Dieu vivant dans la lumière de gloire partagée avec le Père et le Fils. Dans une âme unique embrassée par la lumière de gloire. Et c'est ainsi qu'elle a créé, engendré dans le Verbe et dans son époux, le ciel de la résurrection par l'âme. L'âme de Jésus, comme l'explique saint Thomas d'Aquin à cet instant-là, a créé, a vu se créer en lui le ciel de la résurrection. Sans résurrection de la chair. Marie est l'engendrante du ciel de la résurrection, sans la résurrection de la chair. Et tout ça est assumé à l'intérieur de la sagesse, de la croix, dans l'assomption qu'elle doit rejoindre, qui lui donne une nouvelle annonciation, un nouveau fiat dans le soleil de la divine volonté, pour qu'en elle et en Saint-Joseph glorifié, dans la transverbération brûlante du soleil de son cœur, co-rédempteur, elle soit à nouveau dans ce fiat de la volonté divine éternelle du soleil resplendissant, de la sagesse de la croix, dans l'éternité du Père, pour que, assumée ainsi avec lui, elle engendre dans le Verbe de Dieu la résurrection de Saint-Joseph dans la chair. Soyons extrêmement attentifs à ce qui se passe dans le mystère de la croix, dans ces 36 heures, dans le mystère co-rédempteur de la vision contemplative de Marie. Marie était assumée. Dit l'assumer, assumer, assomption, assumer, vous voyez. Et dans l'oraison, il le faut. C'est nécessaire que nous soyons assumés. Mais si je m'occupe de la pustule du voisin, c'est une poussière qui est engloutie, une plume. Une mouche. Oh, une mouche. C'est la sagesse, ça? Non, il faut que réfléchissant, attentif. Comprenez ça? Voilà, voilà. Donc, on va en rester là parce qu'il faut qu'on célèbre la messe, sinon on va rater le train. Mais je tiens à vous dire ça, hein. Regardez, mettez votre, intéressez-vous à ça. La Sainte Vierge vous le montrera. Passionnez-vous, passionnons-nous tous ensemble. Sur la lumière de gloire de Saint-Joseph dans le fond des enfers, créée à l'instant de l'union hypostatique des chérés de Jésus. Cette assomption totale de Jésus et de Joseph, cette lumière de gloire à l'intérieur de la paternité incréée de Dieu, a quelque chose de prodigieux, parce que c'est le nouvel ange Gabriel à Marie, co-rédemptrice au pied de la croix, dans le mystère du sein, du bugre, du parfum, que mais, du parfum de Joseph, hein, que. Resplendir dans l'au-delà de la résurrection désirée elle-même, à travers elle, le mystère de la résurrection de la chair est désirée en elle-même, permet à l'union hypostatique désirée d'être glorieuse aussi. Et elle engendre donc dans le Verbe de Dieu le mystère de l'agneau, se marquer du front de l'agneau, et c'est notre soleil, et c'est l'agneau qui nous sert de flambeau, et c'est à ça qu'on voit si on a été marqué. Avant le jour d'avertissement. On n'a plus besoin d'être enseigné. Et on est tous frères. La Jérusalem spirituelle pour nous n'a finalement plus de secret quelque part. On ne sera pas surpris. C'est à ça qu'on voit si on est marqué. Par le chiffre de la bête, 666, ou par le sceau. Que chacun soit attentif de savoir s'il a été marqué ou non. Si nous n'avons pas été encore marqués, il n'est pas trop tard. Tellement facile d'être marqué. Il suffit de faire oraison. Comme dit Martre Pain, hein. L'oraison prime même sur la messe. Votre une heure d'oraison, Marthe Robin, prime sur toutes les messes qui ont été dites depuis le début de la création. Une demi-heure, ça a plus de poids. Vous saviez ça? L'oraison prime surtout à la fin. Et quand on est dans la fin, il n'y a plus que fruit, et ça commence à dire l'oraison. Sacrement, il n'y est plus, c'est pas grave. C'est embêtant, mais c'est mieux s'il y a la messe, c'est évident. On ne méprise pas la messe, mais l'oraison prime surtout. Ça va marquer sur le front. Voilà. Ça, c'est une base essentielle du catéchisme de l'Église catholique. Un rappel constant des prêtres, dans toutes leurs abbayes, toutes les paroisses, toutes les cathédrales. Ils n'arrêtent pas de dire ça, sans arrêt. Mais les fidèles, c'est pas ce qui leur arrive. Ça doit être le méchant. Sûrement. Je pense. Il n'y a pas d'autre explication. Alléluia. C'est moi. On a besoin d'une guérison, hein. Oh là là. On a besoin que dans l'eau de la vie, ces ébullitions de molécules diamantales qui montent à notre surface et se soudent les uns aux autres pour former la coupe de la bénédiction que je puisse recevoir. Sans. Assumer. Assumer. Et dans la raison qu'on peut assumer. Quand on descend, tout ce que tout le monde brûle, la Babylone des Gaules, c'est pareil. Tout va brûler. Moi, j'aime bien ça. Oh mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut. Dieu amour à toute création.